Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section de Nantes et du pays nantais. Autrement dit, de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, le rendez-vous de l'enregistrement de notre chronique. Après un mois de novembre bien rempli, avec la journée des droits de l'enfant, la journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, nous allons aujourd'hui creuser la question des prisons. Quelle est la fonction d'une prison et quelle en est la réalité de vie ? Nous creuserons ces questions avec Cécile et Véro, toutes les deux membres du collectif Prison 44. D'ailleurs, Nathalène, une première question vous brûle.
Bonjour Cécile, bonjour Véro. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ?
Véro, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et j'ai longtemps correspondu via l'association Le Courrier de Beauvais, qui fait partie des 18 organisations qui sont dans le collectif Prison 44, qui organise tous les ans la journée des prisons à Nantes et dans le département, enfin dans une partie du département. Et ça m'a donné envie de me renseigner, donc de joindre ce collectif pour mieux alimenter un petit peu nos informations de sources fiables de la part venant de personnes qui fréquentent presque au quotidien les personnes qui sont entre les murs.
Merci Véro. Cécile ?
Oui, bonjour, donc Cécile. Je fais également partie du collectif Prison 44 qui regroupe, donc, comme le disait Véronique, 18 associations qui s'occupent à la fois des personnes en détention ou de leurs familles. Certaines associations sont présentes physiquement en détention, d'autres plus à distance et puis pour les dernières s'occupent de l'après et de la réinsertion. Moi, dans ce collectif, je suis plus sur les relations à distance au sein de à but amical et à but de formation.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la réalité théoriquement légale, ce qui est attendu dans la vie en détention et éventuellement ensuite, quelle en est la réalité ?
Alors, la détention devrait normalement permettre à la personne citoyenne ou citoyen de prendre conscience de ces écarts par rapport aux lois qui permettent une vie collective équilibrée dans une société. Donc, on devrait leur permettre, par des moyens tout à fait respectables, de se réinsérer dans la société, puisque le problème, c'est que si on les met entre quatre murs, là, c'est qu'on a jugé à un moment qu'ils n'étaient pas capables de faire partie, comme tout un chacun, de la société à l'extérieur. Donc le but, ce serait vraiment d'avoir un suivi personnalisé qui leur permette de sortir de façon un peu plus positive, disons, qu'ils ne sont entrés, sur des bases plus solides pour refaire partie du commun de la société.
Et qu'est-ce qu'il en est des conditions matérielles des détentions ?
Alors, matériellement, normalement, il pourrait avoir droit à une détention individuelle dans une cellule individuelle. On a vu récemment dans la presse une photo de la jolie cellule de notre ancien président de la République. Donc une cellule prévue pour une personne avec un lit et puis un équipement de base, c'est-à-dire dans la même pièce qui fait en général dans les 9 mètres carrés. Vous avez les toilettes qui sont ouvertes et puis de quoi vous asseoir et faire quelques activités quand même, écrire ou autre chose, un peu de cuisine éventuellement. Mais la réalité, c'est que c'est très rare qu'on soit une seule personne dans la cellule. En particulier dans les maisons d'arrêt, qui sont les endroits où on place les personnes qui sont en attente de jugement ou qui viennent d'être jugées puis qui ont des peines assez courtes. Donc ces maisons d'arrêt, en ce moment, enfin depuis pas mal d'années, elles sont vraiment surpeuplées. On peut avoir deux détenus, donc avec deux lits éventuellement, et même trois, voire peut-être quatre, avec des matelas au sol.
Véro, vous parlez de maisons d'arrêt et quel type d'autres lieux de détention y a-t-il ?
Alors, le centre de détention accueille, lui, les longues peines, c'est-à-dire des personnes qui sont condamnées et qui vont rester plusieurs années, donc qui peuvent déjà construire un projet, qui peuvent être suivies un peu mieux par l'administration pénitentiaire dans leur projet éventuellement, qui peuvent éventuellement travailler, ce qui n'était pas possible en maison d'arrêt, et qui peuvent suivre des activités avec des intervenants extérieurs qui viennent, qui sont agréés par l'administration.
Et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme concernant les conditions de détention. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette condamnation ?
Alors, il y a eu plusieurs condamnations. 47 prisons ont été condamnées pour des conditions indignes de détention. Ça commençait à Fresnes, je crois. De 3 détenus se sont plaints des conditions.
Ces détenus. Qu'on entend par conditions indignes ?
Alors, la surpopulation, l'hygiène, très souvent l'hygiène. Dans certaines prisons, vous avez des parasites, des animaux. Moi, j'ai correspondu avec quelqu'un qui avait non seulement des insectes, même des rats qui venaient dans la prison. Et puis les murs qui sont humides. Bon, oui, alors, il a fait très chaud là, avec les canicules en ce moment. Enfin, les dernières années, là, c'est une horreur dans les prisons parce qu'on ne peut pas aérer comme on veut. Il y a les barreaux, il y a les fenêtres qui sont un petit peu... Et puis, il y a le traitement qu'on leur prodigue aussi, les fouilles à corps, par exemple, quand ils reviennent du parloir, des fouilles à nu. Il y en a qui se sont plaints que c'était systématique et injustifié, souvent. Il y a eu des coups, et puis la surpopulation entraîne aussi des risques de maltraitance, bon, pas forcément par le personnel, mais par les co-détenus, tout simplement. Il y a des cas où, comme il y a beaucoup de personnes en souffrance psychiatrique qui sont enfermées parce qu'on n'a pas de place dans le système de santé, on les met un peu facilement maintenant dans les prisons, ces troubles psy sont dangereux pour les co-détenus, aussi pour la personne elle-même qui n'est pas toujours bien soignée.
On insistera tout à l'heure sur les conséquences des conditions de surpopulation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation à Nantes ?
Alors, à Nantes, le centre de détention n'est pas en surpopulation, mais par contre, la maison d'arrêt pour hommes en particulier, au 1er janvier 2024, pour 345 cellules, c'est-à-dire 445 places théoriques, il y avait 794 personnes enfermées. Ça ne s'est pas amélioré du tout depuis.
Vous venez de nommer la LDH. Comment intervient-elle dans les prisons à Nantes ?
Alors, à Nantes, la LDH n'intervient pas directement dans les prisons. Nous avons des signalements, des demandes de proches de détenus ou de détenus. Donc nous pouvons signaler, comme tout un chacun, d'ailleurs tout citoyen, au contrôleur général des lieux de privation de liberté que la personne dans telle cellule avec tel numéro a des problèmes dans tel établissement. Il y a une difficulté qui ne devrait pas avoir lieu si la loi et les règlements étaient vraiment bien appliqués. Donc ce contrôleur peut intervenir jour et nuit sans prévenir. Il peut aller visiter tous les coins et dans les centres de détention et les maisons d'arrêt. Il peut interroger individuellement, en privé, les personnes détenues, les personnels aussi. Il fait tous les ans un rapport qui est très utile pour faire des préconisations ensuite aux responsables de l'administration pénitentiaire et aux élus. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Dunini, 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 dunini. Baiana, baiana.
Baiana, baiana. Revenons sur la question de la surpopulation dans les prisons. Donc on a vu la situation nantaise. À quel facteur peut-on attribuer cette surpopulation ?
Les condamnations qui sont prononcées, c'est un peu une tradition en France. Bon, on n'a plus la peine de mort, mais on enferme quasi systématiquement pour. Alors qu'il existe d'autres solutions pénales qui permettent à la personne de ne pas être complètement désocialisée à l'extérieur non plus, et puis d'être bien, bien suivie. Mais il faut du personnel, là aussi, des travailleurs sociaux qui soient présents en nombre suffisant sur le terrain.
Et quelles sont les conditions de cette surpopulation ? Pas les conditions, ce n'est pas le bon mot, les conséquences, pardon. Je reprends, quelles sont les conséquences de cette surpopulation ? Vous parliez tout à l'heure notamment des personnes qui peuvent avoir des atteintes psychologiques. Il y a ces cas-là, il y en a certainement d'autres.
Alors, les conséquences, bon, physiquement, dans un petit espace, bien sûr, c'est difficile. Imaginez-vous avec deux ou trois autres co-détenus que vous n'avez pas choisis, c'est difficile. Les autres conséquences, c'est l'absence d'activité pendant ces longs séjours, parce que on n'a pas une offre suffisante d'activité physique, de sport, de culture pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'animation, il n'y a pas assez de travail, même au centre de détention. Les personnes qui voudraient travailler n'ont pas forcément le choix de le faire. C'est assez compliqué. Et puis plus la vie, disons, je dirais, civile à l'extérieur est lointaine, plus on perd les habitudes de vie en société, normalement, sans être dépendant toujours des autorités, des surveillants.
Une demande fréquente des personnes incarcérées était de changer de codétenu.
Par exemple, il y a un exemple où quelqu'un n'a pas été écouté alors qu'il demandait à ne plus être avec un codétenu qui était malade. Donc, il y avait des problèmes de digestion. Et vraiment, ça, comme il y a une toilette ouverte dans la cellule, c'était insupportable pour lui. Il n'a pas été écouté quand il a voulu changer. Et ça s'est très, très mal fini. Cette personne en est décédée même.
La personne qui s'est plainte...
Qui était malade. Non, pas la personne qui s'est plainte, mais la personne... qui était malade, qui avait des troubles physiques et psychiatriques aussi, et qui était vraiment le souffre de douleur. Et elle a perdu la vie à Rennes l'été dernier.
Est-ce qu'on a des solutions pour limiter cette surpopulation aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a une action de la LDH par rapport à ça?
Alors, les solutions, celle qui tend à s'appliquer en ce moment... et qui est la panacée aux yeux des décideurs politiques, c'est de construire de nouvelles prisons. Il y en a une de prévue à Angers. Le problème, c'est que plus on en construit, plus on met de personnes à l'intérieur des murs, sans avoir forcément du personnel compétent en nombre suffisant. Donc le problème n'est pas résolu à la sortie de prison, puisqu'on a des sorties sèches sans amélioration de l'état de la personne qui était incarcérée. La LDH a rédigé, avec d'autres associations du collectif, un courrier demandant une régulation carcérale auprès du président du tribunal à Nantes, par exemple, et puis des juges aussi. On n'a pas eu de réponse, parce que je pense que la justice, c'est un fait, elle est débordée par toutes ces tâches et le nombre de dossiers qu'elle a traités. Il y a aussi, au niveau national, du plaidoyer qui est fait auprès des élus, donc auprès de l'Assemblée nationale. Il y a des rencontres qui se font avec des demandes vraiment de trouver d'autres solutions que l'incarcération.
On l'a un peu évoqué avant, mais on peut être malade en prison et il y a de plus en plus de personnes malades mentalement et physiquement. Quelles sont les dispositions pour prendre soin de ces personnes ou en tout cas leur permettre de prendre soin d'elles-mêmes ?
Alors, il existe un service médical en prison qui dépend du ministère de la Santé. Donc, il y a des personnels médicaux qui sont à disposition des personnes détenues. Mais celles-ci doivent faire la demande qui sera acceptée ou pas et qui sera accompagnée jusqu'au lieu de consultation. Le secret médical n'est pas toujours très bien respecté. D'ailleurs, quelquefois, c'est compliqué. Quelquefois, et même assez souvent, il y a des délais encore plus longs qu'à l'extérieur parce qu'on manque de dentistes, on manque d'ophtalmologistes. Enfin bon, c'est compliqué. Et puis, il y a des services où on devrait être suivi mieux que cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction, qui sont incarcérées. Ça, c'est un motif assez fréquent. Et les addictologues ne sont pas toujours disponibles, pas toujours présents dans le service de santé de l'établissement, alors que quelquefois, ça fait partie de la peine qui est prononcée de se soigner, en fait.
Et donc, il y a cette question du vieillissement en milieu carcéral.
Oui, le vieillissement, le handicap. Donc, il y a quelques cellules assez rares en centre de détention qui sont accessibles aux personnes handicapées. Mais souvent, la personne doit se faire aider d'un co-détenu pour vivre au quotidien et répondre à ses besoins.
Moi, ce que je veux ajouter, c'est que pour les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est très compliqué aussi d'accéder aux promenades parce qu'il n'y a pas forcément la structure et les conditions pour y aller. Et puis, je rejoins Véronique sur le co-détenu qui se trouve des fois de fait à gérer le handicap ou la maladie de celui qui partage la cellule, en fait. Ça met une responsabilité sur cette personne sans que forcément elle ait souhaité l'avoir.
Il y a en ce moment toute une politique pour empêcher l'utilisation des téléphones portables. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne façon d'aider les détenus?
Les détenus ont besoin de contact avec leur famille, avec leurs proches. C'est très difficile. Ils sont limités en ce moment à une liste très réduite de numéros de téléphone qu'ils peuvent appeler, un temps réduit, pas forcément dans des conditions d'intimité.
Oui, et puis il y a surtout le coût du téléphone.
Ouais.
Le téléphone en détention coûte très cher. Les personnes qui n'ont pas forcément les moyens peuvent avoir des difficultés à joindre leurs proches. Après, il reste aussi la solution du courrier, mais qui là aussi, les timbres sont de plus en plus chers. Donc, c'est assez compliqué et pourtant, c'est essentiel, je pense, pour la personne incarcérée et pour la famille de maintenir des liens.
Oui, et ce courrier est ouvert et lu par l'administration. Enfin, il peut être lu.
Oui.
Donc, il n'y a pas d'intimité là non plus.
Non. Et
sauf pour le courrier au contrôleur général des lieux de privation de liberté, à l'avocat et à quelques aux défenseurs des droits, par exemple.
Oui.
Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire.
On abordait la question du lien avec l'extérieur à travers le téléphone et avec le courrier. Est-ce que, Cécile, vous pourriez nous parler du courrier de Beauvais ?
Il faut savoir que la détention, plus la peine est longue en plus, elle coupe les liens de la personne incarcérée avec sa famille, ses proches. Enfin, c'est très compliqué en plus, bon, en fonction de ce qui s'est passé, mais aussi pour les personnes de venir rendre visite au parloir. Ça peut être très loin, ça coûte cher de venir. Le temps alloué n'est pas très long non plus. Donc, voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, qui ont également envie de garder un lien avec l'extérieur et qui donc font appel à l'association Le Courrier de Beauvais. C'est une association qui met en lien les personnes détenues qui en font la demande avec les adhérents bénévoles qui proposent un échange avec un but amical pour voilà aussi comment dire aussi sortir de du langage, enfin du vocabulaire qu'il peut y avoir en détention. Garder aussi une ouverture sur l'extérieur. Et c'est quelque chose, en tout cas, des retours que l'association a, qui apporte beaucoup aux personnes qui ont ce type de relation épistolaire.
Il y a une autre association, l'association Auxilia. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que cette association ?
Alors, au niveau des échanges par courrier, donc, il y a une autre association, donc Auxilia, qui, elle, fonctionne à peu près de la même façon que le courrier de Beauvais, mais qui propose des formations. Soit des formations pour des personnes qui souhaitent se cultiver sur un sujet en particulier, soit à des visées plus de réinsertion. Donc il y a plusieurs matières qui sont proposées. Ça peut être la remise à niveau en français, en mathématiques, des matières générales à visée de diplôme. Sachant qu'Auxilia n'inscrit pas au diplôme. Ça, c'est le service enseignement avec l'éducation nationale qui est présente en détention qui s'en occupe. Ou des formations plus techniques, avec la réserve que bon, c'est par écrit et qu'il n'y a pas forcément la pratique qui peut être associée. Mais ça permet en tout cas aux personnes de se projeter dans la suite et de commencer à penser à l'après et à la réinsertion.
Est-ce que l'accès à l'échange épistolaire en prison est simple pour les détenus ? L'accès et la pratique une fois qu'on y a accédé ?
Non, alors c'est pas très simple. Alors déjà, il faut qu'ils en fassent la demande. Ensuite, les formateurs Auxilia ou les personnes du courrier de Beauvais leur répondent directement sous couvert d'un anonymat. Ce qui est compliqué pour eux, c'est de trouver les conditions pour pouvoir se concentrer et écrire. Là, on en revient à la surpopulation carcérale, ou en tout cas pour les personnes qui sont en maison d'arrêt, se concentrer quand on est à 3 ou 4 dans la cellule pour écrire un courrier à son correspondant de type amical ou se concentrer sur sa formation, ça peut être compliqué. Là, s'ajoute aussi la peur d'être lu, puisque l'administration pénitentiaire peut ouvrir le courrier et lire ce qui est inscrit. Et puis, il y a tout ce qui est matériel. Il faut cantiner. Alors, cantiner, c'est remplir la petite fiche pour pouvoir acheter son matériel, mais il faut cantiner les timbres, cantiner les feuilles de papier, les stylos. Et puis, pour ceux qui veulent d'autres formations, des livres, cantiner tout ce qui peut servir de matériel pour pouvoir suivre sa formation.
Merci. Juste un petit mot de plus pour dire qu'il y a plusieurs initiatives pour maintenir le lien entre la détention et l'extérieur. Donc, l'Envolée, une émission radio qui donne la parole aux prisonniers et à leurs proches. Et qui publie aussi un journal d'opinion. Prison Insider, qui est aussi un témoignage de détenus, notamment sur le handicap. Et puis, on vous invite aussi à écouter le podcast Les Enfermés, produit par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qu'on évoquait plus tôt.
Oui, l'OIP aussi. L'Observatoire international des prisons qui publie des témoignages de personnes incarcérées et qui agit avec eux.
Thank you. Come along, catch a heffalump. Sip with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by.
Au-delà de la mise à l'écart des personnes dangereuses pour la société, la prison a donc pour mission d'assurer l'insertion, la réinsertion des personnes. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est la réinsertion et qui s'en occupe, Cécile ?
Alors, la réinsertion, donc déjà dans l'administration pénitentiaire, il y a tous les services, les SPIP, services, je vais y arriver...
Pénitentiaire
d'insertion et de probation. De probation. Voilà, qui sont là pour accompagner les détenus vers la sortie et puis la suite. Sachant que ben, c'est comme pour le reste, au niveau du personnel, c'est assez limité et que c'est compliqué pour ces personnels de suivre tous les détenus. Là, s'ajoute encore la surpopulation carcérale qui n'arrange pas. C'est pour ça que ces services se tournent beaucoup vers les associations qui sont là bah, pour un peu pallier ce manque de personnel.
Et ça se traduit comment ?
Et ça se traduit comment ? Bah, qu'il y a plusieurs associations qui œuvrent dans ce sens. Donc au sein du collectif, si je peux les présenter, donc si je me trompe pas, il y a deux associations, enfin bon, plusieurs associations, excusez-moi. Il y a Permis de construire qui a cette mission, qui accompagne des personnes qui ont eu affaire avec la justice et qui les accompagne sur une longue durée. Une autre association qui s'appelle Wake Up Café qui, elle, s'occupe aussi de réinsertion mais avec des programmes plus courts et plus intensifs. Donc, c'est deux visions un petit peu différentes. Et afin de préparer la sortie, il y a également une ferme qui a cette mission. C'est la ferme de Kermadelaine à Saint-Gilles-des-Bois qui accueille des détenus en fin de peine. Une dizaine à peu près, qui sont dans une structure de ferme, qui apprennent à revivre en collectivité, mais en ayant leur propre espace chacun. Le but n'est pas forcément d'en faire des maraîchers, mais de les remettre dans une dynamique autour du travail. Et des échanges aussi avec des personnes extérieures, puisqu'il y a des ventes qui se font à la ferme, des produits, fromage et puis tout ce qui est légumes. Et également sur un marché, que je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est à Saint-Nazaire, mais en tout cas, les personnes ont de nouveau contact avec des gens de l'extérieur.
Kermadelaine est une initiative qui part d'où ou de qui ?
Une branche d'Emmaüs, en fait.
Oui, c'est ça.
Une association qui s'appelle Source d'Envol, voilà, qui a démarré avec une personne ou deux détenus en semi-liberté au départ. Et puis maintenant, ils en sont à 10.
C'est ça.
Une dizaine, oui.
C'est ça. D'après un modèle qui était déjà expérimenté dans une région de France.
Alors en Corse, j'ai correspondu avec quelqu'un qui était dans une ferme comme ça.
D'accord.
Un ancien club méditerranéen d'ailleurs, transformé en centre de détention et avec des activités agricoles et même de bûcheronnage, je crois aussi.
D'accord, donc Kermadelaine n'est pas un cas isolé, il y a d'autres... centre ou lieu d'accueil comme ça pour les personnes qui sortent de prison.
Oui, mais ça reste anecdotique par rapport au nombre de personnes incarcérées en France. Bayana, Bayana. Bayana, Bayana.
Nous disions pendant la virgule, vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur ce que vous appelez, ce qui s'appelle les sorties sèches.
Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que malheureusement, ça reste la majorité des sorties. C'est-à-dire que la personne, quasiment du jour au lendemain, apprend que ça y est, c'est l'heure de la sortie. Et donc, la porte s'ouvre, la personne sort sans aucun... aucune préparation, sans aucune aide. Donc s'il n'y a plus de proches, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas quelque chose derrière ça, ben, la personne se retrouve, peut se retrouver, oui, même sans un ticket de transport, peut se retrouver à la rue en fait.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Voilà qui est dit. C'est ici que notre tour d'horizon s'achève. Un grand merci à Élodie, Nathalie, Nathalène, Franz, Emmanuel, Véro et Cécile. N'oubliez pas d'aller jeter une oreille dans les podcasts de la chronique, ils sont à jour. Vous les trouverez sur le site de la LDH ou sur Jet FM. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-france.org. Et d'ici le prochain enregistrement, où nous vous retrouverons à 18h30 le mercredi 17 décembre au bar Personne pour parler des violences policières et de l'ONL. L'ONL d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est ?
L'Observatoire National des Libertés.
Exactement. Et bien juste après et pendant cette chronique d'ailleurs, depuis et après cette chronique, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.